Mon épouse et moi, nous célébrons nos 50 ans de mariage. Et je veux que vous voyez le don que Dieu m'a donné, le meilleur don qu'il m'a donné. Patricia, tu peux te lever pour que tout le monde puisse te voir? Comment célébrer 50 ans de mariage avec 4 enfants? Ils sont tous mariés avec leurs enfants dans l'église, 15 petits-enfants. On en a baptisé 7. Ils vont de 23 ans à 3 ans. Comment célébrer tout cela? Alors j'ai pensé à lui donner 50 jours pour 50 ans. Et on est au milieu de tout ça. On est revenu pour cette conférence. Et on va repartir. Nous, on va peut-être faire 60 jours après tout. On a tellement bon temps ensemble. Et on va revenir, bien sûr, dans quelques semaines. Et on va continuer avec notre ministère. Et on est vraiment reconnaissant pour l'amour de notre église, l'amour de nos enfants. J'ai eu des notes de mes enfants, de mes petites filles, ce matin, qui m'ont demandé de prêcher bien. De tous les dons que Dieu peut vous donner, d'avoir une famille en Christ dans notre église, c'est vraiment spécial. Une bénédiction sans égale. Nous adressons le sujet du mouvement charismatique. Le sujet, c'est le feu étranger. Ce sujet est quelque chose dans mon cœur pendant de nombreuses années, même des décennies. On peut reculer, retourner dans mes premières années de mon ministère, lorsque j'ai commencé, et j'ai vu le commencement de ce mouvement, et j'ai été très concerné. Au travers des années, j'ai adressé ce mouvement. Il y a même 40 ans, j'ai fait une série sur le mouvement charismatique. J'ai écrit un livre sur les charismatiques. Et après les années, j'ai écrit un autre livre, Le chaos charismatique, plus de séries, plus de prédications pour aider nos gens à avoir le discernement. Et lorsque les gens me demandent c'est quoi le plus gros problème dans l'église, je leur dis toujours la même chose. L'absence du discernement, c'est le plus gros problème dans l'église. Parce que si tu peux pas discerner la vérité de la parole de Dieu dans tes mains, tu peux vraiment croire dans des milliers de récits. C'est des couches qui s'accumulent et qui sont difficiles à percer. Une des responsabilités du ministère, du côté positif, c'est d'instruire les gens avec patience, mais aussi de corriger, de reprendre et d'exhorter et d'utiliser la parole de Dieu pour faire cela. Et d'avoir du discernement, c'est au cœur de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est le reflet de la pensée chrétienne qui doit être attachée à la doctrine véritable et saine. C'est très évident qu'une grande partie de la chrétienté n'a pas de discernement. Et donc, un grand effort de cette conférence et de tous mes amis qui vont vous offrir, qui vont partager la parole, c'est de vous aider à avoir du discernement. Nous savons qu'il y a des gens qui font partie de ce mouvement, qui déçoivent les gens, qui sont des faux prophètes et qui le savent, qui sont là pour l'argent et le savent. Il y en a d'autres qui font partie, qui ont été trompés et qui ne le savent pas. Il y a des leaders qui doivent être repris et exposés. Et il y a des gens qui comprennent pas, qui doivent être aidés et amenés à la vérité. Nous voulons être comme les Béréens qui cherchent les Écritures pour savoir quelle est la vérité, mesurer tout par rapport à l'appui de la parole. Comme je disais il y a une minute, vous êtes les élus. Vous avez une chaise spéciale pour cet événement. Ce qui arrive maintenant ne s'est jamais passé dans l'Église, dans le passé, au courant de ma vie, lorsque les gens sont venus ensemble pour réfléchir à cette question. Et quelle amplitude cela a ? Il y a plus de la moitié d'un milliard de gens qui suivent le courant charismatique. Et il y a 1 milliard de catholiques. Pour plus de perspective, il y a 14 millions de mormons. Et la moitié de milliards de charismatiques, c'est... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui reprendraient un pasteur pour reprendre les mormons, qui ont des mauvaises vues sur le salut, sur Christ. Mais pourquoi sommes-nous si réluctants, pourquoi c'est si difficile de reprendre ce courant si grand? Nous devons le faire ensemble, avec amour, avec compassion, être direct, pour voir les choses comme elles le sont, avec discernement, et avoir une force avec les gens qui s'unissent pour pouvoir adresser la situation. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles. On va regarder à Lévitique chapitre 10. C'est dans ce passage que l'on voit, c'est la source du titre pour notre conférence, le feu étranger. Le devoir et le privilège primordial des chrétiens, la plus grande responsabilité de l'humanité, c'est vraiment d'adorer Dieu. On peut être le comportement, le devoir, la responsabilité extrême, c'est d'adorer Dieu. Le Père cherche de vrais adorateurs, des croyants dans l'évangile de Jésus-Christ. Sans ses adorateurs, c'est notre devoir éternel et notre privilège. En fait, chaque fois qu'on regarde au paradis, au ciel, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont au ciel, les saints et les anges, glorifient Dieu. L'activité la plus sérieuse dans laquelle nous puissions nous engager, c'est l'adoration de Dieu. Et non seulement au ciel, mais sur la terre. Et lorsqu'on est assemblés ensemble pour adorer Dieu, nous avons prononcé sur nous-mêmes l'urgence et le sérieux de l'activité que nous pratiquons. Il n'y a rien de plus sérieux que l'adoration de Dieu. Et je sais que dans notre société, souvent l'adoration superficielle. C'est l'activité la plus sérieuse que nous pouvons faire. Et d'adorer dans l'esprit, c'est d'adorer avec nos facultés humaines, d'adorer dans la vérité selon la parole. Lorsque nous adorons avec notre cœur, notre âme, notre force, lorsque nous adorons avec amour, nous le faisons parce que nous aimons Dieu avec notre âme, notre cœur et notre force et notre être entier. D'être complètement consacré dans une adoration avec amour de Dieu selon la vérité qu'il nous a révélée. Dieu a établi l'adoration en Israël dans le livre du Lévitique. Et leader de l'adoration qui avait été choisi par Dieu étaient les prêtres. Et tout cela a commencé avec Aaron, qui a été appelé en Exode chapitre 29. Il est consacré en Lévitique 8. Et il est la tête de la famille des prêtres et il est dirigeant de la louange pour le peuple de Dieu. Au chapitre 9 du Lévitique, Aaron offre des sacrifices pour le peuple à Dieu selon les prescriptions de Dieu. Aaron avait informé que Dieu allait répondre de manière positive à ses sacrifices. Et au chapitre 9, verset 6, Moïse a dit que ce sont les choses que Dieu a ordonnées pour que la gloire de Dieu apparaisse. Et Moïse a dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation à ton holocauste et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre pour le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Dieu avait donné un commandement et Aaron devait suivre ce commandement en offrant ce sacrifice et en le faisant de cette manière que Dieu avait révélé, la gloire de Dieu allait apparaître en réponse. Et lorsqu'on va au verset 22, Aaron lève ses mains vers le peuple, il est béni, puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Les fils d'Aaron, Aaron fit ce qu'il devait faire et Dieu montra sa gloire. Il obéit et la gloire de Dieu fut manifestée à tout le peuple. Et Dieu envoya un feu pour consumer le sacrifice, car le sacrifice lui plut. Et puis on arrive au chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michel et Eltsaphan. Car Dieu avait dit, c'est ce que l'Éternel avait dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et alors Moïse appela Michel et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron a dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Aaron fut obéissant, et Dieu consuma le sacrifice. Ses fils furent désobéissants et Dieu les consuma à eux. On n'a pas besoin d'aller dans tous les détails pour réaliser que lorsqu'on se présente devant Dieu, nous devons honorer Dieu de manière qui respecte sa révélation. C'est ça d'adorer selon la vérité. Et les fils d'Aaron étaient des hommes respectés. C'était des prêtres de Dieu. Nadab était le prochain pour être le grand sacrificateur. Moïse était leur oncle. Leur nom était à la tête des listes des nobles d'Israël en Exode 24. Sans compter Abraham et Moïse, ce sont les seuls qui sont nommés dans les Écritures lorsque la première fois que les Écritures parlent des leaders d'Israël, furent les seuls nommés parmi la première liste des leaders d'Israël, en Nombre chapitre 11, parmi les 70 anciens. Ce n'étaient pas des gens méchants, des usurpateurs, c'était des gens honorés. Ils avaient le privilège d'aller à Sinaï pour voir à une distance lorsque Moïse parlait à Dieu. Les gens n'avaient pas ce privilège. Le peuple, mais Nadab et Abihu pouvaient le faire. Les gens étaient dans le désert, regardaient de loin le tonnerre et la fumée, mais Nadab et Abihu pouvaient venir proche pour voir Dieu et boire et manger avec lui. Seulement Moïse était plus proche de Dieu que eux. Tout cela semblait tellement sécure. Et puis verset 2, le feu sort et les consume. Et Moïse affirme, parce qu'il vint vers Dieu avec de manière qui n'était pas sainte. C'est quoi le feu étranger? C'est difficile à dire. Il devait prendre le feu de l'autel de bronze que Dieu avait allumé. Et ils amenèrent un feu qui était étranger, de notre lieu, allumé d'une autre manière. Pour notre génération qui est charnelle, égoïste et irresponsable, ça paraît une réaction vraiment trop forte. C'est tellement important, la place d'où le feu provient. Peut-être il y avait plus, on n'est pas sûr. Le fait que dans le verset 9, on voit que Aaron est instruit de ne pas être saoul ou de ne pas boire de boisson enivrante peut montrer que peut-être ils n'avaient pas le contrôle de leurs pensées. Cela mena à leur blasphème, à leur pratique blasphématoire. Le même feu qui avait allumé le feu auparavant les brûla. C'est sérieux, c'est terrifiant. Ça nous rappelle d'Ananias et Saphira en acte 5. Lorsque Dieu les jugea, lorsqu'ils mentirent à l'esprit, lorsqu'ils vendirent leur propriété. Ça peut paraître encore par rapport à notre société, quelque chose, une réaction trop forte. Mais encore, on sait que les crimes les plus grands contre Dieu arrivent lors de l'adoration qui est corrompue. Je vous invite à aller dans vos Bibles en Exode chapitre 32. Il y a tellement de choses à dire. On va aller assez vite. Mais on connaît cette histoire, le veau d'or. Chapitre 4, on voit Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le veau d'or fut la représentation du vrai Dieu, mais une fausse représentation du vrai Dieu. Et le peuple, au verset 6, on voit, ils se levèrent après les holocaustes. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ils adorent le Dieu de manière corrompue et blasphématoire. Et on connaît comment l'histoire finit, et le désastre qui s'ensuivit, et tous les gens qui moururent. Les frères tuèrent leurs frères avec l'épée. Accomplissant le jugement de Dieu. Et je répète encore une fois, le plus grand crime qu'on peut commettre contre Dieu, c'est l'adoration corrompue. Et cela nous amène par rapport à ce mouvement qui déshonore God, qui déshonore Dieu, le Père, le Fils, et encore plus déshonore le Saint-Esprit avec des idées, des actions, des croyances, des prétendues, des fausses promesses, des comportements de la chair qui sont attribués au Saint-Esprit, mais qui sont un déshonneur avec lui, qui ne devraient pas être identifiés avec son nom. C'est un feu étranger. Et là, ce qui est triste, c'est que cela sera jugé. Lorsque je parlais à une église au sujet de cela, j'ai dit, c'est très sérieux. En Matthieu 24, Jésus dit aux juifs, aux leaders juifs, vous avez attribué l'œuvre du Saint-Esprit que j'ai fait à Satan. Et ils ont dit que ce que Jésus avait fait, c'était par la puissance de Satan. Et c'est l'inverse qui arrive souvent dans le milieu charismatique. Et l'œuvre de Satan peut être attribuée au Saint-Esprit. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père 3 en 1, ne doit pas être pris à la légère. C'est dangereux de jouer avec un feu étranger. C'est dangereux d'offrir une adoration corrompue et de déclarer des choses que le Saint-Esprit n'a pas fait, n'a pas dit, ne participe pas dedans. Et pour les œuvres du Saint-Esprit, ce n'est pas une chose insignifiante, une petite chose. Mais ça échappe beaucoup de ces gens qui font partie de ce mouvement. Je regardais l'autre jour un comportement d'une secte de l'hindouisme qui s'appelle le Kundalini. Et ils ont certains mouvements physiques qui s'expliquent par des possessions démoniques. Et ces mouvements physiques sont les mêmes qu'on voit souvent dans le mouvement charismatique. Comportements extrêmes qu'on voit dans ces réveils, soi-disant. C'est du paganisme. C'est souvent l'œuvre de Satan, du royaume des ténèbres. Elle ne devrait pas être attribuée au Saint-Esprit. C'est tragique. De certaine manière, c'est tellement ridicule que ça peut faire rire. Mais c'est tragique et agonisant. Et que ceux qui affirment être les plus dévoués au Saint-Esprit, qui affirme être dévoué au Saint-Esprit, sont les mêmes qui souvent sont engagés dans des pratiques avec des démons. D'attribuer au Saint-Esprit des œuvres qu'il ne fait pas, des choses qu'il ne dit pas, des expériences qu'il n'a pas autorisées, c'est un crime très sérieux. De certaine manière, les charismatiques se sont jetés dans des fantasmes un petit peu. Est-ce que je discrédite tout le monde de ce mouvement? Non, mais sûr que non. Il y a des gens dans ce mouvement qui désirent adorer Dieu de manière réelle, mais qui peuvent être embarqués sans le savoir dans des mauvaises pratiques, car l'intention n'est pas suffisante. Le mouvement en lui-même n'offre rien pour la vraie adoration. Le mouvement lui-même, je le redis, ne nous a rien apporté pour nous enrichir dans la vraie adoration. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le mouvement charismatique n'a fait aucune contribution à la clarité des doctrines bibliques. Nous avons la parole de Dieu et la doctrine bien avant le mouvement charismatique, et des interprétations bibliques véritiques bien avant le mouvement charismatique. Nous avons des hommes fidèles depuis le temps des apôtres, et une nuée de fidèles travers de l'histoire, qui lui donne une compréhension des Écritures qui est riche bien avant le mouvement charismatique. Et on peut revenir en arrière pour lire les puritains, pour lire les apôtres et les réformeurs et voir la clarité qu'on voit sur les issues bibliques. Mais les charismatiques n'ont rien apporté. Ils ont amené du chaos, la confusion, les mauvaises représentations et fausses compréhensions. Les gens charismatiques, oui, il y en a qui comprennent la vérité. Est-ce qu'il y en a qui ont de la bonne théologie sur certaines, dans certains domaines? Oui, bien sûr. Mais ces compréhensions ne leur sont pas parvenues au travers du mouvement charismatique. Mais au contraire, sont venues de la nuée et des hommes fidèles au travers de l'histoire qui sont restés fidèles à la parole. Le mouvement charismatique a confus beaucoup de personnes. Ce n'est pas une source ou un avancement pour notre compréhension des Écritures et de la doctrine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sauvés dans des églises charismatiques et au travers de leurs prédications? Oui, oui. Mais il n'y a rien de ce mouvement qui a était la raison pour les sauver. C'est l'évangile, la raison pour laquelle ils sont sauvés. Et ça n'a pas été inventé par ce mouvement. Dans certains lieux, c'est encore intact. Dans certains lieux, ça ne l'est plus. Il n'y a rien qui est venu du mouvement charismatique qui a permis de rétablir la doctrine biblique ou qui a préservé la vérité et la saine doctrine. Ça a seulement produit la distorsion, la confusion et des erreurs. La foi de l'évangile biblique a été intacte, il a survécu et continuera à survivre parce que Dieu le protège. Élève des gens et des églises fidèles au travers des générations. Oui, il y a des gens dans le mouvement charismatique qui connaissent la vérité, qui aiment la vérité, qui sont orthodoxes sur l'évangile et hétérodoxes sur le Saint-Esprit. Tous ne sont pas hérétiques, je le dis encore. La contribution de la vérité des gens dans le mouvement ne vient pas du mouvement, mais au contraire. De notre côté, le mouvement charismatique est rempli de non-croyants, de gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont impliqués pour de manière charnelle, pour des désirs, pour des émotions. Je suis vraiment reconnaissant pour ceux qui connaissent la vérité, qui y sont fidèles, mais la vaste majorité, je crains, sont dans les ténèbres. Et c'est une grande délusion. Tous ces gens, en Matthieu 7, des gens qui disent « J'ai fait cela dans ton nom, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. » Et Jésus leur dit « Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. » C'est une prophétie qui reflète ce mouvement. Je rends gloire à Dieu qui sauve des gens même dans ce mouvement et qui permet à des gens qui sont dans ce mouvement d'avoir le Saint-Esprit et d'avoir donné à des pécheurs le salut. Et c'est possible malgré le mouvement de devenir chrétien, mais pas à cause de ce mouvement. Ma grande crainte, c'est que les gens sont perdus dans ce mouvement, en chassant après des fausses promesses et des plaisirs charnels, sans comprendre le vrai salut de Dieu. Il n'y a pas de mouvement basé sur l'évangile orthodoxe qui a causé plus de dommages que ce mouvement. $500 millions de gens avec cette compréhension des Écritures peuvent vraiment faire beaucoup de dommages. Et cela ne vient pas de leur connexion avec la vérité. Mais son succès est attribué à sa participation avec l'œuvre du royaume des ténèbres. Parce que ça donne aux gens ce qu'ils veulent déjà. Les évangéliques ont ouvert leurs bras et ont reçu le cheval de Troie du mouvement charismatique et ont placé une idole dans la ville de Dieu. Et pas la vérité. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de plus précieux, de plus sérieux que cela ? En contraste, la théologie réformée, la saine doctrine, n'est pas un lieu de repos pour les faux prophètes et les faux docteurs. Ce n'est pas là où ils habitent. La théologie réformée, l'exposition fidèle de la parole de Dieu, selon la lignée des hommes fidèles, n'est pas un endroit pour la fraude et pour les faux docteurs. Ce n'est pas là où les gens qui trompent se réunissent. Ce n'est pas là où vous trouvez les menteurs et ceux qui veulent mal représenter la vérité. Ceux qui croient dans les doctrines du Nouveau Testament connectées à la réforme ne sont pas ceux qui connectent avec les faux miracles et les trans, et les gens qui tombent, et les paroles bizarres, et les nouvelles révélations qui viennent, qu'on trouve dans ce mouvement. Parce qu'ils sont ancrés dans la vérité. Lorsque l'expérience et l'émotion, l'intuition devient la définition de ce qui est vrai, alors l'enfer est libéré. Hein. 1657, John Owen a écrit une analyse de la communion avec Dieu. Le titre de son livre était « Selon la communion avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, chaque personne, distinctement en amour, en grâce et en consolation. » Ou, un autre titre, « La communion des saints avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit développé. » C'est un trésor, ce livre de John Owen, parce qu'il parle de la communion dans la Trinité. Et Owen parle que notre communion est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et comment on reçoit et comment on répond à chaque personne individuellement de notre relation de basé sur l'alliance, initié par le Père et ratifié par le Fils, communiqué par le Saint-Esprit. Le Père montre un amour souverain, le Fils montre une grâce souveraine, le Saint-Esprit donne une vie souveraine. Et nous devrions être engagés pleinement dans l'adoration du Saint-Esprit et ce que Dieu a fait à travers du Père, du Fils et la validation que le Saint-Esprit a fait, la consécration, l'acte de nous sauver, de nous sanctifier. C'est ce que le Saint-Esprit fait, il convainc, il régénère, il justifie, il illumine, il sauve, il sanctifie, il adopte, il baptise, il habite, il fortifie, il dirige, il délivre. Il protège, il donne du fruit. C'est ce que les Écritures nous disent. Et ce que l'Écriture ne nous dit pas, c'est que le Saint-Esprit nous fait tomber, il nous fait rire de manière ridicule. Il nous fait réchauffer de manière bizarre, il nous donne le hiccup. Ok, il nous donne des convulsions, des transes, il nous fait tomber, il nous fait parler de manière primitive, nous faire sauter ou d'autres choses ridicules. John Owen écrit que le ministère de l'Esprit, c'est de nous faire rappeler les promesses de Christ, de nous faire glorifier l'amour de Dieu en nous. Il témoigne avec nous en ce qui concerne notre état spirituel, de nous sceller jusqu'au jour de la rédemption. C'est l'évidence de notre héritage. Il nous oint avec de la consolation. Il confirme notre adoption. Il est présent lors de nos supplications. C'est la sagesse de la foi de trouver l'aide de l'Esprit dans toutes ces choses, sans perdre leur douceur, en étant dans les ténèbres par rapport à leur hauteur, ni en faillant d'être fidèle à ce que cela demande de nous. Il y a tellement de choses de l'Esprit qui sont ignorées et qui sont dans les ténèbres. Owen dit que la vraie communion, c'est avec les trois personnes, dans la méditation, de la prière et une vie ordonnée. Et lorsqu'on comprend le ministère de miséricorde de chaque personne, et lorsque nous savons comment répondre à leur love dans la soumission envers chacun, avec une communion complète avec Dieu, et ça déplaît à Dieu de moquer ce qu'il nous donne. Romains 12 parle d'une adoration raisonnable, acceptable. Ça, c'est notre priorité. L'ultime priorité. Thomas Wilson a dit que notre adoration est des fois avec le Père, des fois avec le Fils, des fois avec le Saint-Esprit. Des fois, le cœur est poussé vers le Père dans son amour pour nous choisir, vers le Christ pour sa rédemption, pour le Saint-Esprit qui cherche les choses de Dieu. Et l'homme va vers une révélation vers l'autre. Et ça, c'est la communion que nous devons avoir. Nous ne devons pas être satisfaits lorsque chaque personne a un impact en nous, repose en nous et on s'assoit au milieu d'eux lorsque chaque personne manifeste leur amour pour nous et c'est la plus grande promesse de vie que Dieu nous a donnée. J'aime cette phrase. Que toutes les personnes de la Trinité soient au milieu de nous. Il y a un avertissement en Hébreux 10. Nous allons regarder. On connaît ce passage encore. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne ce qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ? Qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Souvent, on reste sur la première moitié de cette phrase. Un avertissement, une conséquence qui est plus grande pour ceux qui ont foulé le Fils de Dieu. Mais lors des 25 dernières années, je pense qu'il y a eu une grande défense de l'Évangile et des organisations, des institutions, des coalitions. Même avant que Jim Boyce décédait, il y a la Fédération des Évangéliques pour défendre le caractère de Dieu, sa divinité, son œuvre à la croix, sa résurrection, les doctrines de justification et toutes les vérités qui y sont reliées. Il y a eu beaucoup de travail qui a continué à grandir. Et même trop, que tout doit être pointé sur la croix. On a défendu Christ et la croix sans fatigue. Il y a des attaques pour Dieu qui... La théologie ouverte qui s'appelle, que Dieu ne connaît pas le futur. Il y a beaucoup d'académiciens qui sont réunis pour répondre à cette attaque contre le Père. Mais dans ce verset, on doit être rappelé qu'il y a une punition pour ceux qui ont insulté l'Esprit de la grâce, qui ont outragé l'Esprit de la grâce. Et nous brisons, c'est le verbe en grec qui signifie l'audacité ou l'insolence. C'est une insulte violente, outrageuse. C'est le vent de Dieu, Yahweh Ruah, Dieu le Saint-Esprit. Et alors que nous sommes d'accord que l'enfer sera plus chaud pour ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu lorsqu'ils connaissaient la vérité, mais le même avertissement est donné à ceux qui sont audacieux et insolents et qui violemment insultent l'Esprit de la grâce. Et le verset qui suit dit « La vengeance, la rétribution est la mienne. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. » Les gens devraient être terrifiés d'insulter l'Esprit de Dieu. C'est une chose terrifiante. Le Nouveau Testament nous révèle que le vent de Dieu, Ruah Yahweh, crée la vie, purifie la vie, conforte, nous conforme les pécheurs, équipe, scelle, illumine. Ce sont les choses dans lesquelles l'Esprit doit être honoré et aimé. Je vous donne une citation. La plus grande tromperie satanique qui a jamais été offerte, c'est la fausse doctrine qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Qui a dit ça? Qui nous sécurise? Qui nous scelle? Qui est celui qui donne l'évidence de notre salut? C'est le Saint-Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit. Son travail, c'est de nous sécuriser pour toujours, de nous protéger pour toujours. Cette citation, c'est une citation d'un leader charismatique. C'est une accusation contre le Saint-Esprit de faire l'œuvre de Satan. À cause de l'œuvre du Saint-Esprit qui intercède pour nous de manière qui ne peut être exprimée, chaque personne qui appelle à Dieu est justifiée et glorifiée. C'est une insulte à l'Esprit de Dieu et c'est dangereux. Très dangereux. Benny Hinn a dit « Non, 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 va à Dieu et dis si c'est ta volonté. » Ne dis jamais ça. Mais le Saint-Esprit ne bougera pas jusqu'à ce que je lui demande. En deux citations, on a vu le Saint-Esprit être accusé d'activité démoniaque. Et sa souveraineté qui a été doutée. Benny Hinn est souverain alors que l'Esprit ne l'est pas. Et c'est un faux docteur qui dit qu'il a été loin de Dieu. Et c'est... Il dit qu'il a reçu cela en visitant les tombes de deux prédicatrices mortes. Je ne veux pas perdre de temps par rapport à tous ces prétendus. Je veux vous montrer à quel point ceci est sérieux. Mais mon point principal, c'est que l'adoration du Dieu Trinitaire est la pratique la plus sérieuse que nous puissions avoir. En Exode 20, on regarde les 10 commandements et la première moitié t'appliquer à Dieu. Et l'un de ses commandements, c'est de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, de ne pas parler de Dieu de manière qui soit irrespectueuse, irrévérente. Ne pas utiliser Dieu pour maudire, de ne pas le donner une mauvaise représentation de Dieu, de ne pas attribuer à Dieu ce qui n'est pas de Dieu, et de parler de Dieu de manière qui n'est pas fidèle à qui il est, et de lui donner, de lui attribuer des œuvres qu'il n'a pas fait. Toutes ces choses, c'est de prendre le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas seulement de jurer, de maudire. C'est d'avoir une mauvaise représentation de Dieu. Si vous n'êtes pas fidèle, on voit dans ce passage, d'obéir à un commandement de Dieu, il va avoir des conséquences. Et Dieu va vous amener toutes les conséquences et toutes les malédictions de l'Égypte. De prendre le nom de Dieu en vain ne sera pas impuni. C'est vraiment incroyable que le mouvement a survécu de la manière dont il a survécu. Pourquoi Dieu ne l'a pas jugé? Parce que Dieu est patient par nature. Parce que ses plans sont inconnus. On ne comprend pas toujours ce que Dieu a fait par rapport même avec l'histoire de Job. Mais ce qu'on sait, c'est que la croissance du mouvement charismatique n'empêchera pas l'œuvre de Dieu d'être accomplie dans son temps. Nous n'avons pas besoin d'une représentation en vaudeur du Saint-Esprit. Nous avons besoin que du Saint-Esprit qui est révélé dans les Écritures, le vent du Saint-Esprit, le bon esprit, l'esprit généreux. Et tous ces noms, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de Dieu, l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit de la vie, l'esprit de la grâce, de la sagesse, de la puissance, de la sagesse, de la crainte de Dieu, de sainteté, de gloire, de confort, de puissance et du Tout-Puissant. Saint comme le Père, saint comme le Fils. Telle la sainteté du Fils. Il est souverain comme le Père et comme le Fils. Il est puissant comme le Père et comme le Fils. Il est plein de grâce comme le Père et comme le Fils. Il a le même amour. Il est un dans la perfection de Dieu. Et tout cela mène à dire que nous voulons ou nous souhaitons la restauration de l'adoration du Saint-Esprit dans l'Église de Dieu. C'est difficile pour moi. Comme Jésus a dit, le zèle de ta maison me consume. Et je ressens cette douleur. Et l'Église s'est levée pour défendre le Père, pour défendre le Fils. Pourquoi est-ce que l'Église ne se lève pas pour défendre le Saint-Esprit? Il n'y a aucune manière d'exprimer à quel point nous avons failli. Le mouvement charismatique, avec succès, a été accepté sur la base de l'amour et de la tolérance. Et a corrompu l'Église et a mené à des gens à suivre leurs émotions en doutant des choses primordiales de Dieu dans une autre époque ils auraient été rejetés comme hérétiques. Mais j'aimerais conclure avec ceci. c'est de nettoyer nos esprits de choses trop négatives. Je veux vous rappeler une des grandes choses que l'esprit fait. Sans compter de ce que nous avons parlé au travers de, par rapport au faux docteur, le plus grand don que l'Esprit nous a donné. Je vous invite à aller dans vos Bibles, en Romains chapitre 8. Et on connaît encore ce passage des Écritures, mais j'aimerais qu'on le regarde de manière fraîche et nouvelle. Ceci est la manière avec laquelle sa grâce travaille au travers de nous. Verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est le Saint-Esprit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, c'est le chapitre du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses sur le Saint-Esprit. Ça se résume au verset 26. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il le fait en priant pour nous, en intercédant pour nous, comme Christ intercède pour nous. Il intercède toujours selon la volonté de Dieu, car il connaît la volonté de Dieu. Et en conséquence de son intercession et de son travail, tout œuvre, tout concourt au bien, pour notre bien éternel, en tant que croyant. Non seulement parce que Dieu l'a dit, mais parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est lui qui œuvre pour que toute chose concourt à notre bien. Et un autre élément que j'aimerais mettre en lumière, quelle est l'essence de cette bonté? Qu'est-ce qui est bon dans ce verset? Et on le voit. Ce qui est bon, on le voit au verset 29. Ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Le travail ultime de l'Esprit, c'est de nous confirmer à l'image de Christ. Le Saint-Esprit travaille en nous pour que tous puissent concurrer pour un bien ultime. Et ce bien, c'est que nous soyons conformes à l'image du Fils de Dieu. Pour qu'il devienne la tête de chacun, la prééminence. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie? En bref, il veut vous confirmer à Christ, rendre semblable à Christ. Être pareil à l'image, à l'icône de Christ. Il œuvre en nous pour nous rendre semblables à Christ. C'est ce que Paul dit en Philippiens. Je cours vers le but. C'est quoi le but? C'est le prix de l'appel. Et c'est quoi le prix de l'appel? D'être là comme Christ. Est-ce que nous allons devenir lorsque nous soyons glorifiés? C'est le même but de notre sanctification. De devenir comme Christ. Nous allons devenir comme Christ au travers de la prédestination, au travers de l'appel, au travers de la justification, la glorification. Le Saint-Esprit va nous y amener jusqu'à ce que nous soyons finalement glorifiés comme Christ. Et jusque-là, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est nous confirmer à cette image. Pour comprendre son œuvre, nous devons regarder à Christ. Nous devons regarder à Christ parce que nous devons voir en Christ qui était pleinement homme une image de l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. Comment est-ce que l'Esprit travaille en Christ? En le faisant tomber? Est-ce qu'il avait l'air d'être saoul? Est-ce qu'il tombait, roulait? Ou est-ce qu'il rigolait avec hystérie? D'aboyer? Parler de manière incompréhensible? C'est bizarre de réfléchir à ceci de cette manière. Et les gens qui forcent les autres à agir de cette manière ne peuvent être remplis de l'Esprit, ce n'est pas correct. Le Saint-Esprit était le compagnon constant de Jésus, le compagnon constant de Jésus. C'est l'Esprit qui lui a donné la vie dans le ventre de Marie. Le Fils de Dieu s'est vidé de ce qu'il pouvait avoir de la divinité pour être humain. Et il s'est restreint. Il a restreint son indépendance et ses privilèges divins pour se soumettre au Saint-Esprit. On voit ça en Luc, verset 1, il fut conçu par le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, il grandit en maturité par le Saint-Esprit. En Marc 1, il fut oint par le Saint-Esprit lors de son baptême. En Luc 4, on voit qu'il était soutenu par le Saint-Esprit lors de ses tentations. Selon le même chapitre, il fut fortifié. En Luc 4, 14 et 15, il fut fortifié pour le ministère par l'Esprit. Il fut rempli de l'Esprit pour marcher de manière parfaite en obéissance. Il fut rendu parfait par l'obéissance et par la souffrance. En hébreu, on voit qu'il fit face à la mort avec triomphe par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui opéra au travers de Christ. Romains 1, on voit qu'il fut, il ressuscita par la puissance du Saint-Esprit. Même après sa résurrection, après son ministère, après la résurrection, fut aussi par rapport avec la puissance de l'Esprit. On voit ça en Actes chapitre 1. Vous voulez voir la perfection de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Il faut regarder l'homme parfait, à Christ. Et Jésus-Christ fut conçu par l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne la vie. Et Jésus grandit en maturité par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de grandir. Il fut oint par le Saint-Esprit lors de son baptême. C'est le même Esprit qui nous baptise dans le corps de Christ, il fut soutenu par l'Esprit de Dieu lors de sa tentation. C'est le même Esprit qui nous soutient dans l'homme intérieur lors de nos tentations. Il fut fortifié par le Saint-Esprit dans le ministère. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons et qui nous donne la puissance. Et de la même manière qu'il fut rempli du Saint-Esprit avec le fruit de l'Esprit et de la sainteté, c'est le même Esprit qui nous remplit de cette manière. Jésus-Christ fut rempli de perfection par le Saint-Esprit. C'est ce que l'Esprit fait en nous, et Jésus-Christ fait face à la mort avec triomphe, et ce même Esprit nous soutient dans la souffrance, il nous rendra victorieux. C'est le Saint-Esprit qui a permis à Christ d'avoir ce ministère et qui nous glorifiera à la fin. Vous voulez savoir comment l'Esprit travaille? Regardez à la vie de Christ. Et Christ était parfaitement soumis. Et le Saint-Esprit était à Jésus-Christ ce qui peut être pour nous. L'Esprit est dévoué à faire la même œuvre qu'il a démontré au travers de Christ. En Jean chapitre 16, il y a un verset très intéressant, au verset 6, 7, pardon. c'est mieux que je parte. Car si je ne pars pas, l'aide ne viendra pas. Mais si je pars, il viendra. Et Jésus a dit, c'est mieux pour moi de partir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est mieux parce que le Saint-Esprit va faire en vous ce qu'il a fait en moi. C'est son ministère. J'ai eu mon ministère et cela sera son ministère. Mon ministère a touché à une fin, mais le sien va être lancé dans toute sa plénitude. En Jean 14, verset 16, vous envoie un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous et vous enseignera toutes les choses que je vous ai enseignées. Premièrement, aux apôtres qui écriraient le Nouveau Testament et tous les croyants qui en suivraient. Chapitre 15, c'est la même chose, verset 26. Lorsque l'Esprit vient, le Consolateur que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Verset 13 du chapitre 16, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il ne parle pas lui-même. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous révéler les choses de Christ pour que nous puissions être conformé à Christ. C'est une réalité simple et incroyable. Le Saint-Esprit fait en nous ce qu'il a fait dans le Fils, de nous conformer à l'image même de Christ. Jésus nous a montré ce que pouvait être l'humanité parfaite. Et l'Esprit nous conforme à Christ, donnant la puissance aux élus à pouvoir triompher sur la puissance de Satan, du péché, des ténèbres, d'être de plus en plus à l'image de Christ et nous aide à comprendre la doctrine parfaite, tout ce qui est saint, qui vient de Dieu, les affections divines. Et quelle insulte à l'Esprit de Dieu de lui attribuer la corruption et le manque de sainteté et la folie et même des éléments qui sont démoniques, qui sont des insultes au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de prendre des gens qui sont corrompus, des pécheurs. Prends ces gens qui sont destinés à l'enfer et de les rendre parfaits à l'image de Christ. Je vais croire que la vérité peut prévaloir dans le mouvement charismatique lorsque je vois les leaders ressembler davantage à Christ. Et lorsque je peux voir qu'ils sont vraiment participants à la plénitude de la nature divine. Père Céleste, on te remercie que nous puissions être rassemblés. Merci pour ton peuple et le zèle dans leur cœur pour la vérité, par amour pour toi, et de te connaître, pour te servir, et de comprendre ta parole. Nous savons qu'est-ce qu'est le vrai travail du Saint-Esprit, parce que tu nous l'as dit. Et lorsque nous voyons la similitude de Christ, la douceur de Christ, la gentillesse de Christ, la bonté de Christ, la vérité de Christ. Lorsque nous voyons la parole de Dieu exaltée, nous savons que l'Esprit est à l'œuvre. Et lorsque nous voyons des sacrifices, lorsque l'on voit l'amour, une passion pour la Sainte Écriture, et du discernement pour la vérité a triomphé, et alors on sait que l'Esprit est à l'œuvre. Mais on ne le voit pas pleinement dans ce mouvement, et on ne peut pas conclure que ce mouvement est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas attribuer cela à l'Esprit. Ce serait effrayant de même penser à le faire. Père Céleste, fais que ta vérité puisse être claire. Aide-nous à comprendre pour que nous puissions aider d'autres à comprendre. Merci pour tout ce que tu as fait en nous. On n'est pas trompé. Il n'y a pas de nécessité de poursuivre les choses folles. Nous sommes satisfaits en Christ. Et au travers de l'œuvre de l'Esprit qui est manifestement à l'œuvre dans les chrétiens authentiques. Nous sommes reconnaissants que nous puissions expérimenter cela et la manifestation de l'Esprit par rapport à notre amour pour nous et au peuple de Dieu. Ce sont les choses que le Saint-Esprit produit. Pas seulement ce que nous aimons, mais ce que nous haïssons. Nous haïssons le péché, la corruption. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Mais nous aimons ce que nous aimons et nous haïssons ce que nous haïssons à cause de l'Esprit et de son œuvre en nous. Et nous te remercions pour cela. Nous bénissons ton nom. Donne-nous une bonne semaine. Satisfais en nous ton bon plaisir. On prie en Christ. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.